Voilà donc, nous allons ouvrir avec deux questions et je vais vous demander de poser une seule question. Il nous reste juste un quart d'heure. Une question par journaliste. On commence par la gauche. Allez-y.
Merci, c'est Steve Wendy pour l'agence Chine Nouvelle. Une question à Monsieur Martin Olsen. Vous partez, mais le PAM reste. Est-ce qu'avec le mouvement de retour observé dans le Nord Kivu, le PAM va-t-il, pour cette année scolaire, continuer avec son programme School Feeding?
C'est une question. Oui, merci. Merci pour cette question. Il est vrai que dans les zones que vous venez de citer, nous allons redémarrer, c'est-à-dire que continuer ou redémarrer le School Feeding dans le cadre de fournir un encadrement nutritionnel aux enfants qui sont de la population de ceux qui sont déplacés ou qui revient en tant que réfugiés.
Merci. Une question sur la droite, s'il vous plaît. Présentez-vous. Une question, hein, par personne.
Oui, Albert Omba, Numérica TV. Je voudrais juste m'adresser peut-être au porte-parole militaire qui est à Goma. Et vous avez installé un processus d'alerte à Beni qui porte ses fruits. Est-ce que c'est le résultat de recherche qui a été menée à Calais pour l'alerte précoce que vous mettez en exécution? Est-ce qu'il y a possibilité d'étendre ce système surtout au Sud Kivu vers Uvira où il y a beaucoup d'atrocités?
C'est à propos de l'opération Solive, je crois, colonel Bass.
Merci. Donc, juste pour lui dire que cette opération est à son stade initial, dans un premier temps. Et deuxièmement, comme vous l'avez tantôt noté, nous avions déjà mis en place au niveau de la MONUSCO aussi bien les Community Alert Network, qui sont tous des systèmes d'alerte précoce qui permettent aux populations civiles ou en tout cas aux autorités qui sont dans ces régions-là de nous préalerter afin que nous puissions prendre des dispositions idoines pour une projection rapide et venir protéger les populations civiles comme c'est notre mandat. Et vous le savez, la MONUSCO est un grand laboratoire où on se rend compte que beaucoup de systèmes tendant à protéger les populations civiles ont été non seulement expérimentés, mais aujourd'hui fonctionnent à plein régime et apportent des solutions idoines et qui permettent surtout à la force de réagir en temps réel. Maintenant, si vous voulez l'extension de ce nouveau système aux autres provinces du Sud Kivu, je suis à peu près sûr que compte tenu des résultats qui seront engrangés après cette phase initiale, cette expérimentation pourra être, si vous voulez, ouverte à d'autres provinces, tout ceci dans le cadre de la protection des populations civiles qui est notre mandat au sein de la MONUSCO.
Merci. Nous restons à Goma pour deux questions.
Papi a posé, après nous donnons la parole à une dame et puis on va passer à Manu.
Oui, moi c'est M. Okito Papi du journal Écho d'Opinion. Ma question je l'adresse au colonel Batz. Nous revenons un peu sur l'aspect FDLR. Au Nord Kivu, nous avons au moins plusieurs fractions des FDLR. Alors il y a certains qui sont pour et qui ont commencé même à désarmer. Alors, il y a les ultimatums qui tombent un peu partout, même des chefs d'État des pays des Grands Lacs. Quand vous allez attaquer les FDLR, est-ce que vous allez les attaquer avec l'air dépendant ou vous allez attaquer tous les groupes, toutes les fractions des FDLR?
Oui, merci. Donc, il faudra vous préciser à la suite de votre question que effectivement les FDLR ne sont pas une entité composite. Comme vous le savez, il y a plusieurs factions au sein même des FDLR. Vous avez les FDLR Kasonga, vous avez les FDLR Roud, vous avez les FDLR Foka, qui sont un peu, si vous voulez, la branche dure, l'aile dure de ce mouvement armé, donc force combattante Abakougounzi. Et comme vous l'avez tantôt aussi mentionné, les FDLR ont exprimé de manière très claire leur volonté d'aller à la reddition, mais nous constatons tous que les choses n'avancent pas comme souhaité, parce que le camp de transit de Kisangani, qui a déjà été préparé pour les accueillir, est toujours vide. Maintenant, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas le lieu de dévoiler, si vous voulez, toutes les stratégies opérationnelles qui sont mises en place pour prendre en compte la menace sécuritaire que posent ces éléments FDLR qui ne veulent pas vraiment aller vers la reddition. Mais soyez sûrs et certains que même dans la dynamique de gestion de cette question FDLR, même dans l'expression de la volonté aussi bien des acteurs que des leaders politiques qui se sont récemment réunis, dans cette dynamique-là, nous avons toujours dit que l'option militaire était sur la table. Parce que vous savez pourquoi ? Notre mandat est de protéger les populations civiles. Pensez-vous que réellement que nous devons rester les bras croisés, observer tranquillement des FDLR en train de s'en prendre aux populations civiles ? Des stratégies sont mises en place en parfaite collaboration avec les FRDC et au moment venu, nous aviserons.
Merci, nous restons à Goma. Une autre question.
Merci. C'est Hortense Tabakou de Digital Congo. Ma question s'adresse au directeur exécutif, M. Jérémy. C'est pour le concert de Econ à Goma. Pensez-vous que les habitants de la ville de Goma connaissent même une ou des chansons de cet artiste international ? Pour cette campagne de paix, est-ce que vous avez prévu des choses, c'est-à-dire des sensibilisations en rapport avec les grands ennemis, les grands ennemis de la paix, notamment les politiciens?
Yes, I mean, I think that, I mean, I don't know all the songs of Akon. I don't know, you know, I mean, so I think if they don't know the songs of Akon, then it will be wonderful to find out the songs of Akon. And I think that's the wonderful thing about artists playing all over the world. That's the wonderful thing about broadcasting the show all over the world, is that the people will get to hear Desidaba, and the people will get to hear Lexis Legal, who may well not know his song. So it's very exciting that through the concert, everybody gets the opportunity to listen to different music that they might not know. That's very exciting. That's really progressive.
Alors, la question est bonne. Bien sûr, si, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas les chansons d'école, mais ce serait peut-être une opportunité pour eux d'aller et écouter et apprendre ces chansons-là. Parce que c'est ça l'objectif des artistes, c'est quand ils vont faire des concerts partout dans le monde, c'est pour faire connaître leurs chansons. Et bien sûr, quand nous avons des artistes locaux, des artistes comme Desidaba ou l'Exus Légal, des artistes de la RDC, et comme le concert sera retransmis partout dans le monde, ce sera une opportunité pour la communauté étrangère également d'apprendre sur les chansons de ces artistes qui sont congolais. Donc c'est de deux côtés, des artistes internationaux, la population de Goma aura à apprendre ces chansons-là, bien sûr, et la communauté internationale aura à apprendre les chansons des artistes congolais. C'est comme ça que ça se passe généralement avec ces artistes.
And then in terms of questions for politicians, yes, the question is really for everybody. The 21st of September is a day of ceasefire and non-violence. It was unanimously adopted by every member state of the United Nations, including every single African country. And the question is, you know, what will we do on the 21st of September, whether it be in our governments or indeed as UN agencies or indeed yourself as the media? We all have an opportunity and a possibility to send a really constructive, you know, sort of positive message out to young people who really deserve that. And that's what the day represents. It represents an opportunity for young people to see another picture from the one that they normally see. And that picture is one of hope and one of collaboration and one of unity. And out of that comes the idea that peace is possible. And that makes us climb the journey of peace together.
Alors, donc, il s'agit effectivement, cette journée, c'est pour tout le monde. Cette journée, c'est les politiciens, c'est les ONG, c'est les jeunes, c'est les communautés. Cette journée est une opportunité pour chacun de pouvoir se l'approprier et de faire des activités, de lancer des messages d'espoir, des messages de réconciliation, des messages à toutes les communautés. Bien sûr, cette journée concerne tout le monde et peut-être toutes les personnes devront s'en approprier pour pouvoir changer leur façon de travailler, leur façon de faire les choses et donner une image un tout petit peu différente par rapport à tout ce qui se passe.
Merci. Nous allons revenir à Kinshasa ici pour prendre une question sur la droite et puis une question sur la gauche, éventuellement Goma ensuite. Essayons de... Voilà. Merci.
Merci. Thierry Maï de l'Agence Congolaise de Presse. Après une année du travail de la brigade d'intervention, vous parlez des îlots de stabilité que les représentants spéciaux devraient visiter. Pourquoi vous ne parlez pas des territoires entiers qui sont stables ou à visiter? Pourquoi îlots au lieu de territoires?
Plusieurs îlots forment un territoire sans doute. Je crois que il y a une quinzaine d'îlots de stabilité, mais ils font partie de territoires, si vous voulez. En réalité, il s'agit de villes, de localités, Pinga, Rutshuru, Walikale, etc., libérées de la présence des groupes armés, comme vous le savez. Et à travers ces îlots de stabilité, qu'est-ce que nous voulons ? Nous souhaitons un retour rapide de l'autorité de l'État à travers des projets concrets de réhabilitation des routes, de réhabilitation des immeubles de l'administration, des différents services administratifs comme la police, les écoles, les centres de santé, etc. Et c'est ça, concrètement, pour faire revivre et surtout pour amener la consolider la paix. Parce que sans cette présence, effectivement, ces groupes armés qui souvent ne sont pas très très loin d'ailleurs, peuvent revenir et reprendre ces mêmes localités qui ont été libérées. D'où le concept d'îlot de stabilité pour pérenniser un peu la paix, la stabilité et la sécurité dans ces zones. C'est pour cela que nous parlons d'îlots, mais c'est vrai que plusieurs îlots forment un territoire. Ils sont dans des régions qui sont en train d'être sécurisées. Vous avez vu dans la région de Beni, on a dit on en a fini avec l'opération Sokola contre l'ADF. Et toutes ces zones vont être vraiment stabilisées à travers des îlots de stabilité. Une autre question sur la gauche, peut-être. Oui, allez-y.
Yannisa Westerhoff, RFI. C'est une question plus
monsieur Mbarré. Assez fort, hein, je ne sais pas si Argoman vous entend.
D'accord. Les chefs d'État membres de la SADC, de la SADEC, à l'issue du sommet qui s'est tenu ce week-end, ont appelé la MONUSCO à ce qu'elle organise la possibilité que les FDLR qui désarment volontairement puissent être rapatriés dans un pays tiers en dehors de la région des Grands Lacs, donc pas vers le Rwanda comme c'est prévu pour le moment ou au Congo, mais vers un pays tiers à l'extérieur de la région des Grands Lacs. Quelle est la réaction de la MONUSCO à cette proposition? Est-ce que c'est envisagé, notamment en vue des blocages qu'il y a actuellement sur le rapatriement des FDLR?
Au niveau de cette opération des FDLR, il faut dire que c'est une opération, une fois de plus, menée par le gouvernement, que appuie logistiquement la MONUSCO, c'est vrai. Et nous verrons ce que dit, et comme la RDC est présente et membre entier, fait partie de la SADEC, nous verrons quelle est la position officielle du gouvernement de la RDC sur cette question. Nous avons dit, et je crois que ça a été clair, dans un premier temps, tous les FDLR qui voudraient être rapatriés chez eux au Rwanda pourront le faire, et nous allons apporter un appui logistique à cet effet. Nous avons rappelé que depuis 2002, 11 000 FDLR ont déjà été rapatriés dans le cadre de l'opération DD3R, et cela a été mené à bien. Donc nous encourageons dans un premier temps donc ces FDLR à rentrer. Ceux qui ne voudraient pas repartir dans leur pays, le Rwanda, vous savez que le gouvernement a préparé, avec l'appui logistique de la MONUSCO une fois de plus, le camp de Kisangani pour les recevoir dans un premier temps. Ensuite, effectivement, voir si des pays tiers voudraient les accueillir. Nous sommes dans cette phase, effectivement, si la MONUSCO peut apporter sa pierre, sa contribution à ce niveau, aux côtés du gouvernement de la RDC, nous le ferons volontiers. Voilà ce que nous pouvons dire. Ça fait deux questions ici, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je voudrais prendre une question quand même à Goma. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais bon. Goma, une question s'il vous plaît, et on verra si on peut prendre une deuxième question. Il nous reste 3 minutes.
Oui, moi c'est Malvika, je travaille pour la Balamérique et ITV. Dernièrement, le porte-parole militaire de l'armée sud-africaine, Tolani Mabanga, a menacé de retirer ses militaires en RDC une fois l'Ebola est retrouvé en RDC. Qu'en pensez-vous sur les autres?
Pardon?
Le porte-parole de l'armée sud-africaine, Tolani Mabanga, a menacé de retirer ses éléments sud-africains en RDC s'il y a présence d'Ebola. Qu'en pensez-vous sur les autres?
Sur les autres. Oui, concernant la brigade d'intervention, ben je n'ai pas entendu ces déclarations du porte-parole. Et je pense que jusqu'à présent, M. Charles Bambara, qui a un peu parlé de la crise Ebola, a bien situé et localisé la fièvre Ebola pour le moment en Afrique de l'Ouest. Et je pense bien que le Congo n'est pas en Afrique de l'Est. Et il a aussi dit. Elle a aussi indiqué toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement congolais et en plus de l'appui que l'OMS encore vient d'apporter au gouvernement congolais pour éventuellement contrecarrer toute avancée de la fièvre Ebola. Donc franchement, de mon point de vue, je n'ai pas de commentaire à faire sur la déclaration de porte-parole parce que je pense que le déploiement
d'une unité d'un pays quelconque est soumis quand même à la décision des plus hautes autorités qui siègent au Conseil de sécurité ou qui font partie de la grande famille des Nations Unies.
Dernière question, on la prend à Goma ou à Kinshasa? Bon, à Kinshasa, on me dit. Allons-y au fond de la salle, présentez-vous.
Bonjour, bon, merci pour la parole, Saint-Florien Katumba, pour l'explorateur. J'ai une préoccupation pour M. Charles Bambara. Dans les enjeux politiques en RDC concernant la COP4 d'Addis Abeba, le front par finalité est de palper la qualité et de franchir l'étape d'un accord inclusif tout autour d'une table pacifique. Est-ce que la MONUSCO dispose d'un calendrier approprié pour que la population soit tenue informée concernant les dialogues?
Cet accord cadre d'Addis Abeba est vraiment chapeauté par l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, qui viendra bientôt d'ailleurs, dans une semaine ou dans quelques jours, je l'espère, en RDC. Donc il faudrait voir dans quelle mesure on peut lui poser cette question, il va y répondre. Mais c'est vrai que, pour notre part, au niveau de la MONUSCO, nous soutenons, nous appuyons, et nous accompagnons l'effort de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs afin que les engagements pris au niveau national, au niveau régional et au niveau international puissent effectivement être mis en œuvre.